Vous écoutez On lit pour vous.
Améliorer la culture en serre. Un texte de Maureen Jouglin, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Dans le contexte géopolitique actuel, l'autonomie alimentaire est une priorité. Mais dans un climat aussi rigoureux que le nôtre, produire localement toute l'année demeure un défi de taille. Qui ne rêve pas de fraises du Québec en janvier? En protégeant les cultures du froid, du vent et des intempéries, les serres permettent de prolonger la saison et d'obtenir des rendements plus élevés que la culture en champ, pour une même surface. Ce rendement repose toutefois sur un équilibre fragile. Pour bien se développer, les plantes ont besoin d'une température stable, d'un taux d'humidité contrôlé, d'une quantité suffisante de dioxyde de carbone et d'un éclairage adéquat. Maintenir ces paramètres exige une consommation d'énergie importante. Pour réduire la facture, encore faut-il comprendre comment l'énergie circule dans ces environnements. En hiver, les pertes de chaleur sont principalement liées à la surface de la serre en contact avec l'extérieur, explique Daniel Monfait, professeur au département de génie de l'École de technologie supérieure, ETS. L'ingénieur développe des outils numériques capables de modéliser le comportement énergétique des environnements agricoles contrôlés, qu'il s'agisse de serres, de fermes verticales ou de fermes conteneurs, qui permettent de cultiver des plants sous éclairage artificiel dans des conteneurs maritimes recyclés. Ces outils permettent ainsi de comparer différentes façons de gérer ces espaces. Mieux isoler certains murs, régler le chauffage, optimiser l'éclairage ou encore tester des systèmes de stockage de chaleur. Une ferme conteneur intelligente. Pour les fermes conteneurs, les défis ne sont pas tout à fait les mêmes. L'influence de l'extérieur est beaucoup plus limitée, explique Daniel Monfait. En revanche, l'éclairage artificiel produit beaucoup de chaleur. Il faut donc apprendre à gérer et à évacuer cet excédent. Une ferme conteneur intelligente, mise au point par l'ETS par Didier Haillot, professeur au département de génie mécanique, Martine Doré de l'Université Laval et Daniel Monfait a justement été récompensé en 2025 par le prix Impact Sécurité et Accessibilité, remis par l'ETS. Ce petit laboratoire servira à tester, à échelle réelle, différentes stratégies pour réduire la consommation énergétique tout en maintenant des conditions idéales pour les cultures. « Ce qui m'importe, indique Daniel Monfait, c'est de produire des solutions concrètes pour aider les agricultrices et agriculteurs dans leurs décisions, pas seulement des modèles théoriques. » Mieux pousser sous l'infrarouge. Une autre piste à explorer pour améliorer la culture en serre est la lumière. Au Québec, la période durant laquelle les plantes peuvent croître sans éclairage additionnel est très courte. Dès l'automne, il faut compenser le manque de luminosité. On s'est demandé s'il existait, dans la lumière du soleil, un type de rayonnement qu'on pourrait exploiter davantage, explique Tagnon Missioun, professeur en biologie végétale à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Son équipe s'est ainsi penchée sur le rayonnement infrarouge, aussi appelé rouge lointain. Lorsque les plantes détectent cette longueur d'onde, elles interprètent leur environnement comme étant ombragé et accélèrent leur croissance afin d'aller capter davantage de lumière. En ajoutant différentes doses de rouge lointain à l'éclairage d'ailes utilisé en serre, l'équipe a obtenu des résultats très encourageants. Les poivrons, choisis comme plantes modèles, ont présenté une croissance plus rapide. Sur le plan biochimique, les travaux ont mis en évidence une augmentation du taux de sucre dans les fruits ainsi qu'un rendement légèrement supérieur par rapport aux plants cultivés sous un éclairage standard. Certaines doses élevées d'infrarouge ont toutefois retardé légèrement la maturation des fruits. C'est une autre hypothèse qu'on doit tester, explique le chercheur. L'objectif est de trouver le juste milieu, celui qui permet à la plante de tirer pleinement profit de ce rayonnement sans qu'il y ait d'effet secondaire. L'application à grande échelle n'est donc pas pour tout de suite puisque les productions commerciales souffrent de la moindre baisse de rendement. L'équipe cherche à trouver des marqueurs biologiques qui permettraient de déterminer les doses optimales à administrer selon l'espèce ou la variété. les prochaines étapes viseront à affiner ces paramètres et à sélectionner des variétés potentiellement plus performantes sous nos latitudes. J'aimerais bien travailler avec des producteurs, apprendre d'eux, parce qu'ils possèdent des connaissances acquises au fil de plusieurs années d'expérience, ajoute Tagnon Missioun. La production de fruits et légumes de serre a doublé entre 2020 et 2025 au Québec pour atteindre 86 000 tonnes par an. Des bactéries multitâches en serre. Le chancre bactérien, causé par la bactérie Clavibacter michigagensis, est un nom qui fait trembler les producteurs et productrices de tomates en serre, en particulier en culture biologique. Leurs options sont très limitées. Un seul traitement est autorisé, dont l'efficacité est loin d'être au rendez-vous, et il n'existe pas de variété résistante à la maladie. Éric Désiel, microbiologiste et titulaire de la chaire de recherche en sociomicrobiologie fondamentale et appliquée à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, compte bien y remédier. Son arme secrète? Des bactéries protectrices. Le premier réflexe a été de chercher des micro-organismes capables d'agir comme antagonistes naturels de Clavibacter michigagensis, explique-t-il. Le chercheur ne partait pas de zéro puisqu'il disposait déjà dans son laboratoire d'une vaste collection de bactéries isolées directement dans des champs de tomates québécois. À partir de cette collection, la postdoctorante Nazim Sidigian de l'INRS a identifié plus d'une centaine de souches capables d'inhiber Clavibacter michigagensis. Certaines bactéries, capables de stimuler la croissance des plantes, étaient déjà commercialisées comme biofertilisants. Elles facilitent, par exemple, l'absorption de l'azote ou du phosphore. On s'est donc demandé s'il était possible de trouver une bactérie qui ferait les deux, protéger la plante et favoriser sa croissance. Après plusieurs étapes de sélection, trois bactéries se sont démarquées. Testées en conditions contrôlées, elles réduisent considérablement le taux d'infection tout en stimulant la croissance des plants de tomates. Les articles scientifiques les décrivant devraient paraître en 2026. Une fois les articles publiés, j'espère qu'on pourra obtenir un nouveau financement ou trouver des partenaires prêts à poursuivre, confie Éric Désiel. L'objectif, rappelle-t-il, n'est pas de commercialiser un produit à tout prix, mais de développer, avec les producteurs et productrices, des solutions biologiques adaptées à leur réalité. C'était « Améliorer la culture en serre », un texte de Maureen Jouglin paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Les huîtres, laboratoire vivant de l'évolution des microbes, un texte de Bruno Geoffroy paru le 23 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Une équipe de l'Université de Montréal utilise l'huître comme mini-laboratoire vivant pour étudier l'évolution de communautés microbiennes en pleine nature. En filtrant l'eau de la mer, pour se nourrir, les huîtres concentrent en une zone très restreinte une grande diversité de micro-organismes de leur environnement, notamment des bactéries et des virus. À l'Institut Courtois d'innovation biomédicale, l'équipe dirigée par Frédéric Leroux, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal, s'est servi de l'huître comme d'un mini-laboratoire pour suivre pendant 4 ans l'évolution des communautés microbiennes en milieu marin. L'huître n'est pas qu'une espèce d'élevage destinée à la consommation humaine. Elle peut être aussi un outil de recherche extraordinaire pour explorer l'abondance, la diversité et les interactions de ces communautés, explique celle qui est aussi titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada en écologie, évolution et pathogénicité des microbes dans la nature. Publiés dans la revue Nature Communication, les résultats de cette étude révèlent un paradoxe inattendu. certaines populations de bactériophages, des virus qui ne peuvent infecter que des bactéries, sont restées stables au fil des 4 années en dépit d'une activité génétique intense chez les bactéries qu'elles attaquaient. Malgré les pressions évolutives qui s'exercent au sein de ces communautés microbiennes, cette stabilité est surprenante dans un environnement marin ouvert, soumis aux marées et aux mouvements constants de l'eau, indique la chercheuse. Les scientifiques s'attendaient plutôt à observer un renouvellement rapide des populations virales. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à mieux prédire l'évolution des communautés microbiennes dans un contexte de changements environnementaux. Les huîtres, carrefour d'échanges génétiques. Avec des collègues de l'Institut Pasteur, de la Station biologique de Roscoff, Sorbonne, Université et Centre national de la recherche scientifique, et de l'IFREMER en France, l'équipe de Frédéric Leroux a constaté que les huîtres favorisent particulièrement des transferts horizontaux de gènes, un processus par lequel les bactéries s'échangent directement des fragments d'ADN. Contrairement aux organismes complexes qui transmettent leurs gènes principalement à leur descendance, les bactéries peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles fonctions auprès d'autres bactéries. C'est un moteur d'évolution bien plus rapide que les mutations génétiques, souligne Frédéric Leroux. Ces éléments génétiques mobiles facilitent la circulation de gènes liés à l'adaptation, à la résistance ou à la survie. 4 années d'observation en milieu marin. Actuellement, la plupart des connaissances sur l'équilibre des écosystèmes microbiens proviennent d'expériences réalisées en laboratoire dans des conditions très contrôlées. Pour comprendre comment les communautés microbiennes évoluent en milieu naturel, Jeffrey Liang, co-premier auteur de l'étude et stagiaire postdoctoral dans le laboratoire de Frédéric Leroux, a comparé des échantillons prélevés dans un même parc ostréicole de la baie de Brest en France à 4 ans d'intervalle. L'équipe montréalaise a analysé plus de 1000 bactériophages et plus de 600 génomes de Vibrio crassostreae, des bactéries marines du genre Vibrio. Elle a ainsi constitué l'un des ensembles de données les plus complets jamais obtenus dans ce type d'écosystème marin. Des retombées qui dépassent l'ostréiculture. Après avoir servi de laboratoire naturel pour étudier l'évolution des microbes, les huîtres pourraient bientôt devenir de véritables sentinelles de la santé des écosystèmes marins. Frédéric Leroux et son équipe travaillent à la mise sur pied d'un projet visant à suivre l'évolution de certaines espèces de Vibrio dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, afin de mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur ces environnements. C'était Les huîtres, laboratoire vivant de l'évolution des microbes. Un texte de Bruno Geoffroy, paru le 23 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
Cohabiter dans Hochelaga, une discussion à la fois. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 27 juin 2026 dans Le Devoir. Autour de ressources en itinérance dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, des problèmes de cohabitation sont bien présents. Pour tenter d'y répondre, l'organisme Le Cap Saint-Barnabé, qui y gère 3 hébergements d'urgence, a désormais une médiatrice sociale. Le Devoir a suivi Véronique Martin pendant une journée de travail. Par une matinée grise et froide de mai, Véronique Martin sillonne les rues du quartier avec, accrochée à son sac à dos, une pince de cuisine servant à ramasser les seringues abandonnées au sol. Âgée de 24 ans, elle occupe depuis l'hiver dernier ce poste de médiatrice sociale, d'abord financé par une subvention de la Ville de Montréal, que le Cap Saint-Barnabé a choisi de pérenniser en raison des besoins bien réels. Au quotidien, son travail consiste autant à répondre aux plaintes de citoyens et de commerçants reçues par téléphone ou courriel, dont le nombre varie selon les semaines, qu'à aller à la rencontre du voisinage. Avec l'arrivée des beaux jours, elle multiplie notamment les visites dans les entreprises du secteur. Ce jour-là, elle met le cap sur le Dairy Queen, qui se trouve près du refuge aménagé dans une ancienne église de l'avenue Bennett pour accueillir jusqu'à 60 personnes. La gérante de la crèmerie, Natacha Boucher, raconte composer parfois avec des situations difficiles. On comprend qu'il y a des gens sous l'emprise de stupéfiants, mais pour les familles, ce n'est pas toujours évident, relate-t-elle, tout en disant se montrer conciliante. Désormais, Mme Boucher peut toutefois appeler Véronique Martin directement en cas de problème. Au fil de la discussion, la médiatrice sociale l'informe également de la possibilité pour elle et ses employés de suivre une formation sur l'administration de naloxone afin de savoir comment réagir en cas de surdose dans le secteur. « C'est une super bonne idée », répond la gérante en lui adressant un sourire. Un poste qui aurait dû exister avant. À Montréal, quelques organismes ont des médiateurs sociaux, chacun adaptant son mandat aux réalités du milieu où ils œuvrent. Aux yeux de Véronique Martin, ce poste joue un rôle clé pour désamorcer les tensions entre les ressources d'hébergement et leur voisinage. Elle évoque entre autres l'ancienne aréna sur la rue Hochelaga, où est installé un site d'hébergement du Cap Saint-Barnabé, comptant près de 175 places. On était censé être là temporairement. Ça fait près de 6 ans et on ne bouge pas. C'est sûr que les gens, ça les énerve. La médiation est quelque chose qui aurait dû exister avant à l'organisme, mais on manquait d'argent, souligne l'intervenante aux yeux clairs. Autour du refuge aménagé dans l'ancienne aréna de la rue Hochelaga, certaines inquiétudes proviennent notamment de parents, puisque le CPE Le Jardin Charmant se trouve à proximité, indique Véronique Martin. Mais maintenant que j'ai un contact direct avec le CPE, ils m'écrivent s'il y a un problème. On leur a proposé de payer une partie de l'installation de caméras de sécurité afin d'être capable de reconnaître les usagers advenant un problème, dit-elle. Les incidents sont cependant demeurés rares au cours des dernières années, affirme la directrice générale du Jardin Charmant, Brigitte Mériel-Bussy, que croise justement Véronique Martin dans sa tournée ce matin-là. L'entrée du refuge n'est pas sur la même rue que celle du CPE, note Mme Mériel-Bussy. Ça joue énormément. Si on était directement voisin, peut-être que la circulation serait plus compliquée. Ne pas maintenir le statu quo. En plus de ses tournées, Véronique Martin prépare des formations sur l'itinérance et le vivre ensemble destinées aux citoyens et aux commerçants. Son prochain défi? Réussir à joindre davantage les résidents. Pour elle, l'important est d'arriver à faire participer la communauté à ses projets. Je ne veux pas que mon poste serve à trouver des excuses pour maintenir le statu quo. En entrevue, Maxime Langlois, membre du comité citoyen Cohabitation Hochelaga, affirme que la médiatrice sociale agit de bonne foi et qu'il reconnaît ses efforts de dialogue. Le comité soutient toutefois que la cohabitation demeure difficile pour plusieurs résidents du quartier, notamment en raison de la consommation de drogue observée dans l'espace public. Il réclame donc une meilleure répartition des ressources en itinérance à travers l'arrondissement, mais aussi dans le reste de la métropole. Le but n'est pas de fermer la porte à l'aide aux itinérants et qu'il n'y ait pas de filet social, mais juste d'avoir un meilleur équilibre, explique M. Langlois. Michèle Patnaud, directrice générale du Cap Saint-Barnabé, reconnaît que les installations sont concentrées dans le même secteur. L'organisme a déjà tenté d'en relocaliser une, dit-elle, mais le projet a notamment achoppé en raison d'une forte hausse de loyers et d'importants coûts d'aménagement. Ce n'est vraiment pas un manque de volonté de notre part. C'était « Cohabiter dans Hochelaga, une discussion à la fois », un texte de Florence Morin-Martel paru le 27 juin 2026 dans Le Devoir.
Le complexe des Jardins, un demi-siècle d'affirmation nationale. un texte d'Ariane Godbout, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Chaque année est l'occasion de souligner des anniversaires d'événements aux chiffres ronds. Il y a 10 ans, comme il y a 100 ans, ils ont marqué la petite ou la grande histoire et trouvent parfois écho dans notre monde actuel. Aujourd'hui, les 50 ans de l'inauguration du complexe Desjardins, le plus gros projet immobilier de son époque et marqueur incontournable du succès du Québec Inc. dans le paysage de la métropole. Je pense que tout le monde, de Montréal ou non, a un souvenir du complexe, affirme Pierre-Olivier Maheu, historien chez Desjardins. La phrase fait d'abord sourciller. L'immeuble, ce produit typique de l'architecture brutaliste des années 1960-1970, où le béton est roi et le brun omniprésent, aurait-il vraiment marqué l'imaginaire de millions de Québécois? Il faut regarder en arrière et redonner un peu de profondeur historique au titan de béton. Derrière son apparente banalité, le complexe Desjardins semble bel et bien avoir marqué de plusieurs manières la mémoire individuelle et collective des Québécois de sa construction à aujourd'hui. Fleurons du Québec Inc. Le récit de cet immeuble est d'abord celui d'un succès financier. Desjardins, principale institution financière des Québécois, atteint une certaine ampleur dans les années 1960 et cherche alors à réunir ses employés de la métropole au sein d'un même lieu. L'actif atteint 1 milliard de dollars en 1964, ce qui était assez important, précise Pierre-Olivier Maheu. L'institution avait pris une certaine envergure, mais n'avait pas encore de présence marquée à Montréal. Alors que Lévis, qui accueillait le siège social de Desjardins, s'était fièrement doté de son campus de béton, la métropole attendait encore le sien. Les bureaux de la coopérative étaient situés au nord du boulevard Saint-Laurent, près du parc Jarry, dans un petit immeuble accueillant aujourd'hui la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Le lieu était devenu trop étroit et situé trop loin du centre des activités financières de la métropole. Il fallait donc répondre à des besoins d'espace et de proximité. Mais c'était compté sans les grandes ambitions d'Alfred Rouleau, président du secteur de l'assurance-vie qui allait prendre la tête de Desjardins en 1972. Il ne s'agissait pas simplement d'accroître l'espace, mais aussi de marquer le coup, ajoute M. Maheu. Alfred Rouleau voyait grand pour Desjardins. Il entendait aussi valoriser le français. Le gratte-ciel des francophones. Le contexte était propice aux ambitions d'Alfred Rouleau. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, désirait poursuivre la modernisation de la métropole et la construction de gratte-ciel sur l'ancien boulevard Dorchester. Au même moment, la Révolution tranquille avait permis aux francophones de développer une expertise dans les secteurs de l'urbanisme et de l'architecture qui ont été mis à profit pour la construction du complexe. Le projet est titanesque. L'édifice doit faire environ 4 millions de pieds carrés, contenir plus de 6 000 fenêtres et 69 ascenseurs. C'est le premier gratte-ciel de Montréal construit par des francophones. Et à ce moment, c'est le plus gros complexe immobilier au Canada, souligne M. Maheu. Les plans sont approuvés en 1971 et la mise en œuvre du projet confiée à la firme du célèbre urbaniste Jean-Claude Lahaye. Même pour la construction, de 1972 à 1976, le français est la seule langue d'usage sur le chantier. Une première pour un projet de si grande envergure. Le complexe aurait même permis d'enrichir la langue française d'un terme nouveau. Basilaire, inventé expressément pour le grand podium sur lequel viennent s'appuyer les tours de l'immeuble. Une manière d'atténuer le contraste entre le gratte-ciel et les bâtiments qui l'entourent, de même que la sensation d'oppression des passants qui circulent tout près de l'édifice. Lieu de mémoire collective. La construction du complexe a été financée à 49% par le gouvernement du Québec. L'immeuble, donc, est un peu à tout le monde, soit comme sociétaire de Desjardins, soit comme contribuable, dit Pierre-Olivier Maheu. Une participation publique de cette ampleur explique l'accessibilité de l'endroit, qui abrite un centre commercial et une place publique, ce qui est peu commun pour une institution financière. Un lieu partagé, où se sont déroulés quantité d'événements qui ont marqué la mémoire collective. L'historien sourit quand il évoque les plus grands rassemblements tenus au complexe. Le lancement du deuxième disque de Passepartout. L'entraînement public des boxeurs Sugar Ray Leonard et Roberto Duran avant leur légendaire affrontement en 1981, sans oublier l'émission spéciale animée par Claire Lamarche pour le lancement de l'album « Coup de tête » de Rock Voisine en 1994 et l'incontournable rendez-vous de l'émission « Allô, Boubou ». Une époque révolue? L'âge d'or de l'immeuble appartient-il à l'époque des épaulettes et des pantalons de cuir? On a envie de le croire lorsqu'on embrasse du regard la grande place vide un mercredi en fin de matinée que tente vainement d'égayer un DJ avec un vieil air de Michel Fugain. Mais ce serait mettre de côté les efforts techniques déployés par Desjardins pour moderniser l'édifice, en augmenter l'efficacité énergétique et optimiser le traitement des matières résiduelles. Ce serait surtout faire l'impasse sur la foule qui s'y rassemble à l'heure du dîner et les fins de semaine, et sur l'attachement laconiquement exprimé par les quelques individus interrogés sur place, dont une dame venue y retrouver ses sœurs. Comment trouvez-vous le complexe Desjardins? Je le trouve régulier. L'aimez-vous? Beaucoup. Le complexe, c'est un peu comme plusieurs pans de la culture populaire qui s'y sont déroulés. Un lieu devenu commun dans tous les sens du terme, mais qui a contribué à façonner le Québec d'aujourd'hui. C'était Le complexe Desjardins, un demi-siècle d'affirmation nationale, un texte d'Ariane Godbout, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.